RMC.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas l'annonce classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter. Scuse.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot. Gilbert Bribois.
Et oui, on est là jusqu'à minuit dans l'after avec vous, bien sûr, avec Kevin Diaz, avec Jonathan McCarty. Tout à l'heure, on va aller à Washington, hein, je le rappelle, dans une grosse demi-heure, hein, pour prendre les dernières nouvelles avant les deux matchs amicaux de la nuit. Tout à l'heure, à minuit, vous pourrez suivre Saint-Etienne-Montpellier et à 3h du matin, pour les plus courageux ou pour les plus supporters.
Pour Jonathan.
Marseille-Bordeaux, en l'occurrence, c'est la petite tournée.
Il y a Rocky Sakai dans le groupe.
Pardon ?
Et Rocky Sakai dans le groupe.
Ah, et c'est pas du communautarisme, ça ?
Non, pas du tout, en plus. Bah, il est japonais, moi,
je sais.
Mais non, je l'aime bien.
Avant cela, un sujet qui n'a absolument rien à voir avec les matchs amicaux. On a invité ce soir Philippe Tétard qui a dirigé un groupe d'auteurs pour un bouquin qui s'appelle Côté Tribune, les supporters en France de la belle époque aux années 30. On va donc se projeter un siècle en arrière, quand le foot, oui, existait déjà, quand le championnat de France se lançait, et quand bah il y avait déjà, oui, déjà, c'est ça qui est étonnant dans toute cette histoire, des groupes de supporters, des relations tendues entre club et tribune. Évidemment, c'est une découverte que l'on fait dans ce livre. Et Philippe Tétard est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être là. Alors expliquez-nous déjà la genèse du projet et pourquoi avoir travaillé sur ce sujet-là, donc sur le supporterisme du début du XXe siècle.
Oh bah c'est très simple, moi je suis historien du sport, voilà, donc c'était un sujet qui était possible et sur lequel personne n'avait travaillé. Et puis le hasard a bien fait les choses, je suis tombé au prétexte d'une toute autre recherche sur un papier publié dans un journal sportif du Nord et du Pas-de-Calais, qui essayait de déterminer en 1913 ce qu'était un bon et un mauvais supporter. Et je me suis dit, si on en est déjà là en 1913, c'est alors que ce personnage-là existe de façon suffisamment significative pour qu'on s'interroge sur son sens moral, voilà.
Alors oui, alors est-ce qu'on peut dater du coup précisément la naissance, l'apparition des supporters dans le foot ?
Alors en France, c'est assez clair, c'est 10, 11, 12, à peu près.
Hein, 1910, 1911, 1912,
hein,
pour
ce voilà, un tout petit peu avant la Première Guerre mondiale, dans le nord de la France, hein, dans le nord et dans le Pas-de-Calais, à Lille, hein, la première grève c'est Lille, et bien, probablement sous l'influence du supporterisme belge qui lui était plus précoce et apparemment très très dynamique déjà.
Donc les Lillois peuvent se targuer d'être des pionniers en la matière, quoi.
Est-ce que c'était
les supporters de football du nord, des départements du nord et du Pas-de-Calais sont entre tous les pionniers, très clairement.
Bravo.
Voilà, donc voilà. Lille, Lens, Valenciennes. Alors, c'était pas les mêmes clubs
c'était
qu'aujourd'hui,
Lille,
hein.
Ouais.
Hein, on va y revenir d'ailleurs dans quelques minutes. Oui, Jonathan.
Non, c'était juste pour ça.
D'accord. Alors, enchaînons là-dessus. On n'avait pas à l'époque le Racing Club de Lens, le LOSC. C'était plus des villes moyennes qui étaient des bastions du football.
Ouais, enfin, les villes moyennes, tout est très relatif. Hein. Lille, c'est pas non plus une bourgade hein, à l'époque.
Oui, non, bien sûr, non, mais il n'y avait pas que Lille, on parlait de Douai, de Roubaix, de villes comme ça.
C'est pour oui. Bah, c'est-à-dire que bah, le bouquin peut donner un peu une impression comme ça, un peu trompeuse, parce qu'effectivement, l'essaimage des clubs de supporters ou des groupes de supporters pas organisés hein, sur le mode associatif était si significatif dans cette région-là, quoi, dans le septentrion, comme on dit. Qu'il y a des villes, des petites villes, hein, des toutes petites villes, des villes moyennes et des villes, des métropoles régionales étaient touchées par le phénomène. C'est pas forcément un truc qu'on retrouve partout dans l'Hexagone à l'échelle des villes de moyenne importance. Voilà. Donc malgré tout, ça concernait des clubs qui avaient déjà plus ou moins pignon sur rue pour les plus importants.
La naissance des supporters, voilà, on l'a daté. La naissance maintenant de vrais clubs structuré de supporters. Est-ce qu'on peut là aussi
c'est le même moment. Hein. Les tout premiers, c'est dans le nord, donc à Lille. Le moment où vraiment ça prend son essor, ça devient significatif à l'échelle donc de toute la région nord, Pas-de-Calais, Somme, Seine-et-Marne, etc., etc. Et puis un petit peu dans l'est de la France, c'est le milieu des années 20. Et puis le moment où ça prend vraiment un caractère très si significatif qu'on peut dire que c'est un mouvement qui est quasiment hexagonal, c'est les années 30.
Est-ce que
donc
oui, allez-y,
ouais,
Philippe.
Je vous en prie. Le moment où c'est très significatif, si vous voulez, c'est le milieu des années 20. Voilà.
Est-ce que dans les rapports que les clubs de supporters avaient avec leur club de foot, est-ce qu'on peut retrouver des similitudes avec ce qui se passe aujourd'hui, par exemple avec les ultras ou avec des clubs de supporters un peu plus calmes ou plus participatifs? Enfin, comment ça se passait?
La vérité, c'est très difficile d'en juger. Alors bon, d'une part parce qu'il y avait beaucoup moins de clubs de supporters qu'il n'y en a aujourd'hui. Hein. Moi, j'en ai compté à peu près, si ma mémoire ne fait pas défaut, 110 ou 120 à la fin des années 30.
Ah oui, c'est conséquent quand même.
C'est déjà beaucoup. Ouais.
C'est relativement conséquent. Après, j'ai tenté par des calculs qui sont un peu des calculs d'apothicaire, hein, d'évaluer le nombre de supporters encartés, c'est-à-dire ceux qui étaient vraiment adhérents à un club ou une amicale de supporters en France. Ça fait probablement une vingtaine de milliers de personnes. Donc c'est pas énorme, c'est pas un phénomène de masse, mais c'est pas du tout. Ça ne manque pas d'être déjà très significatif. Alors ensuite, votre question sur la distinction entre ceux qui seraient assimilés à ce qu'on appelle aujourd'hui les courants ultra et puis des supporters, disons, plus bon enfant, plus bon homme. Mm-hmm. En fait, on peut pas répondre à cette question-là. Il y a des types qui sont, que moi j'assimile, vous me pardonnerez l'expression, à des agités du bocal, voilà. Mais ils construisent pas de groupes spécifiques, voilà. Il semblerait que ce soit des cercles dans lesquels il y a des supporters plus ou moins endiablés, plus ou moins passionnés, et puis d'autres qui vivent le supporterisme sur un mode moins échevelé, quoi, voilà. Mais quant à distinguer des groupes qui seraient, par exemple, liés, à une forme d'ultra-supporterisme, parce qu'il y aurait une racine idéologique qu'on connaît aujourd'hui dans un certain nombre de cas, ouais, qui viendrait nourrir et leur attachement au club, et puis tout un discours partisan, ça n'existe pas.
Ouais. Oui, il n'y a pas de club de supporters politisés, clairement, à cette époque.
Non, le seul, moi j'ai repéré un club qui est lié à l'époque, un tout petit club qui supporte à la fois des footballeurs et des athlètes, dans le Nord, et qui est lié à la Fédération Socialiste du Sport de l'époque, mais qui ne fait pas plus parler de lui, ce club, que d'autres, et qui en fait supporte surtout l'idée du développement du sport pour les classes populaires. Ouais. Plutôt qu'un discours proprement militant avec quelque chose éventuellement d'agressif qui tiendrait du débordement politique au stade.
Alors pour les ch'tis qui nous écoutent, hein, quand on parle des villes concernées, là il y a une petite liste dans le. Il y a Lille, bien sûr, il y a Tourcoing, Douai, oui. Boulogne, Arras,
oui, Boulogne.
Béthune,
oui.
Voilà. Donc,
Roubaix.
Roubaix, donc
c'était vraiment un cœur du supporterisme du nord de la France à cette époque-là. D'autant qu'il y avait deux clubs qui jouaient dans les années 30 des rôles non négligeables et dans la Coupe de France et dans les premières divisions professionnelles, et qu'évidemment ça mobilisait les Roubaisiens d'une manière tout à fait remarquable. Et notamment, vous me pardonnerez, mais sans doute allez-vous me rafraîchir la mémoire, lors d'une finale de Coupe de France qui oppose les deux clubs, 32, 35, enfin
les deux clubs
des années 30.
Mmh.
Oui.
Exactement.
Et où il y a des récits qui racontent l'arrivée absolument massive des Roubaisiens à Paris, et puis qui décrivent surtout une ville de Roubaix complètement morte, où tout le monde est réuni l'oreille sur le poste de radio pour savoir lequel des deux clubs vaincra, le tout enrobé tant chez les supporters que chez les responsables du club et chez les journalistes d'un discours très lénifiant, faisant la démonstration que dans la victoire ou dans la défaite, de toute façon, les Roubaisiens sont unis.
On va reparler d'ailleurs du traitement journalistique, ouais, de tout ça.
Ah
à
oui, c'est fabuleux en début du livre là.
Ouais.
Justement, ce qui m'a marqué, c'est quand on décrivait en début du XXe siècle le fait d'être supporter comme un moyen de détourner la jeunesse des bars et de les attirer vers l'éducation physique et sportive. Alors que maintenant, quand on est supporter, on a plutôt tendance à justement se réunir dans des bars.
Oui, c'est vrai. Mais enfin, ça, c'est le discours que tenaient de toute façon tous les dirigeants sportifs depuis la fin du XIXe. En considérant que se prêter aux exercices physiques et, ou dans ce cas-là, supporter les exercices physiques, au besoin les pratiquer dans le même temps, c'était pour les élites qui dirigeaient les clubs et qui avaient souvent des liens avec le monde patronal, hein,
oui,
une manière assez. On peut toujours discuter de la réussite ou de la non-réussite de la chose, hein, mais une façon de détourner les jeunes gens de sorties et de prise d'alcool, qui était d'ailleurs un véritable problème à la fin du 19e. Oui. L'alcoolisme, c'est pas juste une représentation de l'esprit, c'est vraiment un fléau contre lequel l'État se mobilise. Et donc, de ce point de vue-là, finalement, ça apparaissait très louable à beaucoup de gens.
Philippe Tétard est avec nous, je le rappelle, donc le bouquin « Les supporters en France de la belle époque aux années 30 ». On se plonge donc dans les origines du supporterisme. Je n'ai pas donné l'éditeur, pure édition. Alors, vous allez sur le site pour essayer de le trouver, pure-édition.fr. Voilà, oui, Jonathan.
Alors, bonsoir Philippe, déjà bravo pour votre ouvrage. J'encourage tous nos éditeurs à se le procurer, parce que c'est un travail qui est considérable, c'est un travail d'apothicaire, comme vous l'avez dit, avec la difficulté de trier parmi toute la presse de l'époque, ou qui n'est pas forcément informatisée. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé, dans la mesure où, en fait, ce qui m'apparaît, et je vais vous demander votre avis là-dessus, c'est que, donc, j'ai bien compris et suivi toute l'étude sur l'évolution du nombre de clubs de supporters, les régions où les clubs de supporters apparaissaient, principalement dans le Nord. Ce qui m'a frappé, notamment, c'est lors de la professionnalisation du football dans les années 30, que dans une ligue de 21 clubs, il y avait 5 clubs étaient dans Paris, et aucun club parisien n'avait son groupe de supporters, que c'est seulement les clubs de province. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que tout ce qu'on dans l'after, on parle souvent de ce genre de sujet, de la manière dont le football, c'est plus qu'un sport, c'est un produit culturel qui est un petit peu le miroir des évolutions d'une société. Là, en fait, la question que je vous pose, c'est vous, comment vous interprétez un petit peu la temporalité de l'apparition de ces clubs qui, somme toute, connaît son pic entre deux guerres. Est-ce que vous faites le lien avec ce besoin de reconnaissance identitaire en termes de régionalité d'une France qui a été morcelée par la guerre? Est-ce que le fait que les clubs parisiens n'avaient pas forcément de clubs de supporters, est-ce que c'était un petit peu des relents de jacobinisme? C'est des réponses que j'ai pas forcément trouvées dans votre livre, et j'aimerais, c'était pas non plus le sujet, mais j'aurais aimé avoir votre avis là-dessus.
La grève du supporterisme, elle est liée je crois que c'est à peu près ça que vous me demandez. La grève du supporterisme dans l'entre-deux-guerres, elle est liée profondément à un réflexe identitaire de ceux qui s'organisent autour des clubs pour les défendre. Que ce soit à Sète, que ce soit à Nice, que ce soit à Rennes, à Lille ou à Paris, très tardivement, c'est vrai, le réflexe du régionalisme est extrêmement présent. Et donc c'est probablement un des principaux ingrédients de ces passions supporteristes. Alors, bien sûr, la passion qui l'emporte entre toutes, c'est celle du jeu de football, bien entendu, avec tout ce que une compétition, un championnat, une coupe peut apporter de tension, d'espoir, et puis toute cette trame dramatique que vous connaissez largement aussi bien que moi. Mais vraiment, au milieu, il y a la fibre régionaliste, c'est-à-dire le désir de défendre l'identité du club, l'identité de la ville dans laquelle est installé le club, et l'identité du département. En fait, c'est un jeu de poupées russes, si vous voulez, du plus petit au plus grand, c'est-à-dire qu'un vrai bon supporter de l'entre-deux-guerres se doit, au bout du compte, d'être aussi un très bon supporter de l'équipe nationale. Ouais. Et ça, c'est souvent rappelé. Et parfois, il y a des petites anecdotes qui donnent à voir aussi qu'on envisage ce supporterisme-là aussi de manière transfrontalière. C'est-à-dire que la première fois qu'on se pose la question de cet emboîtement des différents types de supporterisme, c'est à l'échelle, en fait, interfrontalière de la France et de la Belgique. Puisque avant la Première Guerre mondiale, on se pose la question dans certains journaux de savoir si on peut être à la fois supporter de Roubaix, supporter du Nord et supporter des Lions des Flandres.
En gros, est-ce qu'on peut être un footix? On se posait déjà la question à l'époque.
Est-ce qu'on peut être un fan qui fait fi des frontières?
Et quelle était la réponse alors?
La réponse est très tranchée. Il y en a qui disent que non, c'est le club d'abord, donc c'est effectivement la ville, et puis d'autres qui disent que finalement c'est pas interdit d'être aussi ce supporter plus large et plus fraternel, confraternel en fait, parce que ça renvoie à l'idée d'une espèce de confraternité supporteriste dont je sais pas pour aujourd'hui, parce que c'est pas ma spécialité, je ne sais pas dire si elle existe toujours.
Alors Kevin Diaz, vas-y Kevin.
Moi Philippe, j'ai une question qui est très after d'ailleurs. Est-ce que les supporters de l'époque, ou en tout cas est-ce que vous pensez que les supporters de l'époque étaient plutôt résultat à tout prix ou émotion d'abord?
Alors là, je vais vous faire une réponse très, très claire et très nette. Ils sont tous passés à Patres. Pour le savoir, il faudrait leur poser la question.
Bon.
Maintenant.
Ben aussi, on peut l'envisager dans les chroniques des journalistes de l'époque.
Oui, voilà. Alors, si on se reporte aux rares bulletins de supporters qui ont été conservés à l'époque, parfois c'était des trucs renéotés, tirés à la main, qui n'ont pas été conservés, donc il en reste quelques-uns. Je crois que c'était assez hybride. C'était vraiment des gens qui étaient de fins connaisseurs du football, probablement pour une part non négligeable d'anciens footballeurs eux-mêmes, qui avaient le culte du résultat et de la réussite, ça c'est très très clair. À ce point d'ailleurs que très très vite, ceux qui éditaient des bulletins notaient les joueurs et ne se gênaient pas pour les tenser et leur coller des sales notes quand ils n'étaient pas bons sur le terrain, de la même manière qu'ils ne se gênaient pas pour créer des cagnottes et remercier ceux dont ils estimaient qu'ils avaient fait du bon boulot sur le terrain. Donc il y a ça.
Ah oui, carrément. Ailleurs, oui, alors aujourd'hui, avec les salaires des footballeurs, évidemment, plus personne ne va faire une cagnotte Litchi pour remercier un gars d'avoir marqué un but. Hein.
Ah bah oui, t'imagines. Bon, autre temps, autre mœurs. Hein. Par exemple, à la fin des années 30, Marseille.
Maintenant, c'est les joueurs qui devraient faire des cagnottes pour remercier les supporters.
Ils ont besoin de recruter un type, c'est les supporters qui casquent. Donc on est dans une autre logique. À Rennes, le club à deux reprises se trouve en situation de faillite. Ce sont des souscriptions des supporters qui à deux reprises sauvent le club et lui permettent de se maintenir dans les premières divisions.
Ce serait intéressant de demander à Jérôme Thomas si ça l'intéresserait de créer une cagnotte pour garder Bernard.
Mais là on a complètement inversé la façon de fonctionner maintenant. Là c'est
il y a quelques clubs quand même
attends, les uns après les autres. Oui, vas-y Kevin, Philippe, je vous redonne la parole ensuite.
Il y a quelques clubs qui avaient des problèmes financiers dont les supporters ont quand même tenté à part, à Bastia aussi, je crois, qui ont tenté de se mobiliser pour récupérer pour récupérer des deniers pour essayer de sauver leur club. Ça a existé ces dernières années.
Oui, Philippe Tétard toujours avec nous hein, pour parler donc de la naissance des mouvements de supporters en France. Jonathan.
J'ai une dernière question sur cette période qui me semble assez phare, qui est celle des années 30. Est-ce que vous ferez un lien? Parce que moi, c'est quand j'ai lu l'évolution de la démographie, si j'ose dire, des supporters français, le lien que j'ai fait direct, c'est 1928-1933, la première vraie crise de la mondialisée économique, avec la chute du livre sterling, et puis toutes les politiques du gouvernement français de l'époque qui recentraient sur les talents des régions, le talent national et l'émergence de ces supporters. Est-ce que vous y voyez un lien?
Pas singulièrement, non. Non. Moi, je pense que le vrai grand levier, c'est tout le débat des passionnés de football autour de la professionnalisation ou de la non-professionnalisation du football hexagonal. Voilà. Et en fait, le moment où le système supporteriste s'installe vraiment avec force, sans racine dans le paysage, avec parfois 10, 15 créations de clubs chaque année, c'est le tournant de la professionnalisation en 32. Et en fait, tout ça commence à bouger à partir de 29-30, c'est-à-dire au moment où des types comme Gambardella et d'autres sont diligentés par la fédération pour réfléchir aux meilleures conditions d'organiser un championnat professionnel. Et puis évidemment, il y a l'affaire Peugeot. Alors peut-être nos auditeurs en ignorent la nature, mais en gros, Peugeot autour de Sochaux, à partir du moment où ils estiment qu'il faut professionnaliser le football, crée un championnat parallèle et ça met un coup de pression terrible qui convainc la fédération de finalement organiser un championnat professionnel.
Oui, c'est intéressant parce que ça renvoie à ce qui se passe en ce moment avec la Coupe d'Europe, c'est-à-dire la volonté toujours des plus puissants et des plus riches de créer leur propre championnat parallèle en oubliant un petit peu les autres. Là, c'est c'est quelque part ce qu'on avait fait à l'époque. Bah si, c'est quelque part
la différence, c'est
une sorte de ligue fermée.
La différence, c'était que quand c'était Peugeot qui avait fait cette ligue, c'était plus, à mon avis, une manière de tenir au carré les ouvriers et de donner un petit peu, tu vois, de créer un loisir de classe pour avoir la main mise sur le prolétariat de l'époque.
Par ailleurs,
Jonathan veut
la réponse de Philippe Tétard.
Non, parce que c'est possible. Enfin, je veux dire, il est très probable que Peugeot ait fait de ça une affaire permettant au nom d'un vieux paternalisme patronal qui s'exerçait d'ailleurs pas que dans le sport, hein, qui s'exerçait et dans les années 30. s'exerce bien plus tôt dans d'autres domaines, effectivement dans la création et l'encadrement des loisirs, de l'hygiène, etc. Ouais. pour les ouvriers attachés à telle ou telle usine. Mais il y a tout un tas de militants de la cause du professionnalisme. Par exemple, les types qui étaient à la tête du club des supporters de Rennes et le président de la fin des années 30 de Rennes, qui s'appelait Isidoro Dorico, qui n'était pas du tout travaillé par la question du mercantilisme, qui n'était pas patron d'industrie. C'était effectivement des types qui avaient pignon sur rue sur le plan professionnel et sur le plan social à Rennes, mais c'était pas des types qui avaient à défendre une enseigne, une marque, hein, comme Peugeot. Donc je pense vraiment qu'il y avait le souci, évidemment, avec le rêve d'une rentabilité à la fois d'image et puis probablement d'argent, de créer un championnat qui allait peut-être exclure de ce fait les clubs les plus faibles ou les moins soutenus, à la fois par des entreprises et par des mairies. Mais ça ne semble pas être le moteur premier.
Non, mais Kevin, Philippe, en fait, ce que Gilbert faisait allusion à ces grands clubs du football européen qui sans cesse agitent la menace d'une compétition, d'une ligue fermée qui serait créée entre eux pour au final forcer l'UEFA à faire les réformes qu'ils veulent sur la Ligue des Champions qui est déjà existante.
C'est un peu ça. Oui, c'est effectivement un peu ça.
Moi, je suis pas un immense connaisseur des jeux et des stratégies parfois plus ou moins agressives du monde de football depuis un siècle. Mais enfin, ces histoires de pression par la menace à la sécession, elles sont pas nouvelles. Hein. Ouais, et d'ailleurs, dans l'entre-deux-guerres, elles se jouaient pas sur le terrain. Elles empiétaient pas sur la question de l'argent, la vérité. Elles jouaient sur le terrain de l'identité régionale. C'est la raison pour laquelle, par exemple, toute une partie des clubs bretons et notamment le Stade Rennais n'ont pas joué le championnat de France durant une partie des années 20 parce qu'ils refusaient l'autorité de la Fédération française de football telle qu'elle était pensée à l'époque. Après, ils sont rentrés dans le giron, mais il y avait un certain nombre de réformes qui avaient été menées. Donc la menace à la sécession, c'est pas un outil très très nouveau. Hein.
Philippe Tétard, dans le livre, il y a des chapitres consacrés au supporterisme donc naissant dans le sud de la France, entre Marseille et Nîmes. On va parler de Nice également, on va parler de la Corse. Mais finissons-en avec le nord de la France. Bon, évidemment, c'était déjà un bassin ouvrier très important, avec le charbon, l'immigration déjà importante à cette période-là dans la région. Est-ce que le fait que le supporterisme soit né dans le nord est lié au mouvement ouvrier sur place ou ça n'a rien à voir?
Il y a quelqu'un qu'on parle beaucoup mieux que moi qui s'appelle Marion Fontaine, et je recommande à tous ceux que ça intéresserait de se plonger dans son bouquin qui concerne l'histoire du football et des gueules noires à Lens, et qui montre très clairement que le football est un loisir de classe, comme on le dit dans le jargon historique, et il y a un lien évident entre les bassins ouvriers, les bassins industriels, et la naissance à la fois d'un certain nombre de sports voués à devenir populaires, ce qui n'était pas le cas du football avant la Première Guerre mondiale, je le rappelle.
Non.
C'était plutôt le cyclisme. Hein. Et donc, effectivement, il y a une identité sociale qui est très très marquée. D'ailleurs, de façon assez significative, pas partout, mais dans le sud de la France, il y a un certain nombre d'installations supporteristes assez précoces, par exemple dans le sud des Cévennes, nord de l'Hérault, qui sont liées, elles aussi, ces implantations, à la présence de mines et de poches industrielles qui, finalement, ressemblent d'assez près à ce qu'on peut trouver dans le Nord.
On va y arriver dans le sud de France, mais faisons un petit arrêt à Paris. Donc, ça expliquerait également pourquoi le supporterisme à Paris est arrivé bien plus tard. Donc, on n'a pas le même substrat social, quoi.
Alors, il y a d'abord ça. La deuxième chose, bon, alors pour les auditeurs, hein, les premiers signes d'un supporterisme organisé à Paris, c'est 34. Donc c'est vrai que c'est tardif.
Alors on est 20 ans, quasiment 20 ans plus tard, là, c'est étonnant.
Voilà. Alors qu'il y a des clubs qui sont des clubs phares, hein, sans pouvoir en douter. Alors la deuxième raison probable qui est évoquée par un de mes collaborateurs, c'est que, en forme d'hypothèse, hein, c'est que il y a une telle offre sportive à Paris.
Il y a cinq
que
clubs,
les passionnés de sport, qui sont en moins grand nombre qu'aujourd'hui, finalement sont soumis à un choix tel qu'il leur est difficile de s'attacher à tel ou tel sport et ou à tel ou tel club.
Mais c'est toujours le cas, en fait. Hein. Parce que à part le PSG, on a quand même un club en Ligue 2 qui est le Paris FC, qui a de très bons résultats, qui travaille bien, mais qui peine à faire. Alors à part pour les playoffs, ouais, où il y avait d'ailleurs beaucoup de Lensois pour le coup, mais Charletti, voilà, ils peinent même à remplir ne serait-ce qu'un tiers. Le Red Star, bon, ils ont quand même leur bastion de supporters pour le coup, mais bon, ils rempliront pas non plus plus de allez 2, 3, 4 000 maximum. Et puis tous les clubs qui évoluent ensuite en 3e ou 4e division, il y en a peu qui ont vraiment, ouais, il y en a quasiment aucun d'ailleurs qui ont de gros groupes de supporters, mais... voire des clients réguliers quoi.
Philippe Tétard est avec nous, le bouquin Les supporters en France de la belle époque aux années 30, donc chez Pure Édition. On va continuer le débat dans quelques instants, l'after revient tout de suite, et puis bien sûr n'hésitez pas à nous appeler, même si on a des petits soucis de fonctionnement du standard ce soir, on n'est pas à l'abri que ça remarche. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Gilbert Bribois.
Kevin Diaz est là, Jonathan McCarthy également. Nous sommes ce soir avec Philippe Tétard, historien du sport, donc qui, en compagnie de certains de ses collègues, sort donc ce bouquin sur les naissances du mouvement supporter en France. Philippe, vous êtes là. Alors, on a quitté le Nord pour aller vers Paris. Partons maintenant plus vers le Sud, puisqu'il y a des chapitres consacrés notamment à Marseille, à Nîmes. Alors, il y a un truc étonnant dans le Sud, on le voit dans plusieurs chapitres, c'est que il y a la question de l'identification. Alors, où est-ce qu'on va aller ? Est-ce qu'on va plutôt être Nîmois ? Est-ce qu'on va plutôt être Marseillais ? Donc ça a mis du temps à se déterminer quand même tout ça.
Ouais, mais enfin bon, c'est quand même assez assez tranché et assez vite, parce que dès lors que les clubs de supporters s'organisent, ils s'organisent pas pour supporter les clubs de la région, ils s'organisent pour supporter tel ou tel club, hein, point à la ligne. Après, c'est vrai qu'il leur arrive d'avoir des amitiés qui, on va dire, des amitiés limitrophes. Par exemple, les Niçois, quand ils sont sortis de la Coupe de France, eh bien, il arrive que certains d'entre eux se mettent à défendre avec beaucoup d'ardeur les Canois. Voilà.
Ah oui, alors que, alors que 100 ans plus tard, ils se détestent. Ouais, c'est comme quoi, ça va servir.
Voilà. Non, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur.
C'est le régionalisme.
C'est une dimension qu'on n'a pas forcément explorée et creusée et qui pourrait établir une peut-être, hein, c'est à vous que je pose la question, une distinction assez marquée avec aujourd'hui, c'est qu'il semblerait qu'il y ait des communautés d'esprit supporteristes qui dépassent un peu les clubs, c'est-à-dire que les supporters se reconnaissent entre eux, et que, j'utilisais ce terme-là, mais après tout, il ne me semble pas si mauvais que ça, une espèce de confraternité. Ça ne veut pas dire qu'on ne se fiche pas sur la gueule une fois de temps en temps, hein.
Alors, on va y revenir d'ailleurs, mais après, bon, y a quelque chose d'important à l'époque. Évidemment, les déplacements étaient beaucoup plus compliqués. Il y avait pas, on n'allait pas se déplacer à tous les matchs, les supporters. Donc, on allait voir le club d'à côté éventuellement, et puis on restait chez soi globalement. Et on supportait à la maison. On supportait pas à l'extérieur.
Le sport, en tant que sport professionnel, était plus jeune. Il n'y avait pas encore eu des histoires de purement sportives qui ont façonné les rivalités entre clubs par la suite.
Il y avait quand même des rivalités qui étaient sérieuses, solides et bien enquistées. Hein.
Ah, pour nous en donner quelques-unes ?
Par exemple, la rivalité, alors perdue sans doute, sauf dans quelques mémoires très très pointues de l'histoire du football, mais la rivalité entre Rennes et Saint-Malo.
Ah oui, il fallait la chercher celle-là. Ouais.
Elle est arrivée quand ? C'était inné ?
Oh, c'était lié au tout début du championnat, dans les années 1900, où les Malouins, Saint-Servant très exactement, hein, Saint-Servant-Saint-Malo avait réussi à attirer chez eux, parce qu'ils venaient travailler sur la côte, toute une escouade d'Anglais qui collait des trempes mémorables aux Rennais, jusqu'à ce que les Rennais s'organisent pour pouvoir rivaliser en fusionnant un certain nombre de clubs, et puis ils ont fini par se partager les titres locaux. Mais il en est resté une tension très palpable jusque dans les années 30.
Ce qui est génial dans ce que vous décrivez, c'est qu'il y a tout le temps des parallèles possibles entre la situation du début du XXe siècle et la situation 100 ans plus tard. Tu vois ? À l'époque, c'était Saint-Malo qui mettait les trempes à Rennes, maintenant c'est Guingamp. Je veux dire, c'est pas si loin.
Et il existe quand même, si je dis pas de bêtises, une prime pour certains clubs bretons en championnat de France aujourd'hui,
oui,
en tout cas ces dernières années, s'ils finissent
à Rennes, ça a existé.
Entre guillemets, le mini championnat de Bretagne.
Voilà, si tu finissais devant Lorient, Guingamp et tout, bon, ça a existé récemment. Il y a même un chapitre complet consacré au football corse. Philippe, pourquoi le football corse ?
Bon, c'est pas très compliqué, c'est parce que j'ai demandé à un très bon ami et à la fois un très bon historien, ce qui ne gâche rien. de nous écrire quelques pages sur le football corse. Alors qu'il présente une singularité, comme il le montre, il s'appelle Didier Rey. C'est un homme délicieux et passionnant, et qui montre que le supporterisme corse, lui, s'est organisé beaucoup plus tardivement. Parce que probablement les modalités de son organisation venaient gêner les usages, les jeux de pouvoir qui tournaient autour des clubs. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que les élites corses étaient relativement rétives devant le développement du football. Et que du coup, bah, elles développaient une méfiance tout aussi remarquable vis-à-vis de des énergumènes qui en étaient les plus fervents défenseurs. Voilà.
Oui, alors de façon générale, on le voit dans le bouquin, ça pouvait parfois être quand même très chaud. Aujourd'hui, évidemment, dès qu'il y a des mouvements de foule, des bastons, ça fait les gros titres. Et c'était déjà le cas il y a 100 ans.
C'était assez ordinairement agité, oui. Pas tout le temps, mais assez ordinairement.
Quand on dit agité, c'est quoi ? C'est échange de mots doux ou c'était les coups ?
Y a tout l'éventail possible. Hein, ça va de l'échange de mots doux, hein, au sens le plus strict, de mots un peu moins doux. Hein, et puis des bagarres dans les tribunes, quelques empoignades sur les pelouses avec des envahissements de terrain beaucoup plus fréquents, semble-t-il, qu'aujourd'hui. Mais pour une bonne et simple raison, c'est que les terrains n'étaient pas protégés.
Il n'y a pas le même dispositif de sécurité, ouais.
Voilà. Ceci étant, il y a aussi des échauffourées suffisamment fréquente et parfois brutale pour que on voit ici ou là des cordons sanitaires avec des gendarmes qui sont chargés de faire en sorte qu'il n'y ait précisément pas de débordement et ou le plus souvent chargés d'extraire le pauvre arbitre qui a à l'époque beaucoup à souffrir des humeurs des supporters présents au stade.
Oui, là, être arbitre il y a un siècle sans sécurité. Fallait avoir envie quand même.
Alors, il y a un certain nombre d'anecdotes qui apparaissent tout à fait improbables aujourd'hui, mais par exemple, de mémoire à Rennes, par exemple, je me souviens d'un papier dans lequel un journaliste disait que finalement la mairie de Rennes avait une très très bonne idée en jetant sur la Vilaine un petit pont tout près du stade qui permettait d'exfiltrer très rapidement l'arbitre en cas de mécontentement du public sans quoi il était en danger. Et puis il y a un certain nombre d'histoires où on sait que soit des supporters du camp adverse, soit des policiers, soit des l'entourage du club sont obligés d'accompagner jusque dans leur train les arbitres et de faire un cordon sanitaire jusqu'à ce que le train démarre sans quoi l'arbitre était susceptible d'être l'objet de vengeance plus ou moins brutale et carnassière. Voilà.
C'était donc déjà violent à l'époque. On est une émission de foot, hein, l'after évidemment. Enfin, précisons quand même que vous parlez aussi du rugby.
Oui.
Et c'était pas beaucoup mieux dans le rugby en termes
c'était
de
pire,
gestion des arbitres et de violence dans les tribunes.
Ouais. La vérité est, semble-t-il, que le monde du rugby était affecté d'un degré de violence qui, dans les années 20 en particulier, en une époque où le rugby était, de toute façon, le jeu lui-même, pointé du doigt par les instances européennes et internationales du rugby, le degré de violence était, semble-t-il, beaucoup plus prononcé, oui.
Et vous direz que c'est les valeurs. Ça sera leur réponse. On en a quelques spécimens à la rédaction.
J'ai pas vraiment de réponse à ça.
Il n'y a pas de réponse à avoir.
Un truc très facile. Pardon ?
Il n'y a pas de réponse à avoir.
Non, bah si, moi j'essaye d'en trouver une, hein, vous savez. Le problème des historiens sur cette question-là, sans vouloir la ramener genre universitaire et compagnie, c'est qu'on bute sur l'absence d'archives.
Oui.
Voyez-vous ? Par exemple, mes camarades qui ont travaillé sur Marseille et sur Nîmes, sont des gens courageux qui se sont coltinés avec les archives de la police et en fait il y a rien et pourtant ça serait extrêmement précieux. Alors sur toutes ces questions là, vous voyez, de débordement, de violence, de cordon sanitaire, qui nous permettrait d'avoir une analyse plus fine de finalement de ce qu'était véritablement le degré et
oui, de quantifier le degré de
violence.
Ouais.
On n'a pas cette documentation là, ouais. Ou du moins ceux qui ont bossé là-dessus pour ce bouquin qui est un bouquin défricheur et pionnier. n'ont pas la prétention d'avoir d'avoir embrassé tout à fait.
Parce que d'un point de vue de la méthodologie, tout a été fait à la main. C'est ça que vous nous dites en fait, c'est parce qu'il n'y avait pas de fichiers informatiques, de rapports informatisés, de presse informatisée de l'époque sur laquelle vous avez étudié.
Ah ben non, il n'y a que dalle.
C'est tout à la main.
C'est du papier.
Est-ce qu'il y avait déjà des, en parlant de papier, est-ce qu'il y avait déjà des banderoles?
Oui, 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 bien sûr. Il y a tout un tas de banderoles, alors des plus vindicatives ou plus pacifiques, et notamment quelques-unes relativement rares. Du reste, c'est une façon d'introduire à une question que vous m'auriez peut-être posée, qui rappelle le supporter à son devoir premier, c'est-à-dire être respectueux des joueurs adverses et des supporters adverses.
Ouais. Et de l'arbitre.
Voilà.
Je reviens sur votre chapitre dédié à Nice, parce qu'on lit le fonctionnement d'un club de supporters, où les supporters étaient quand même très impliqués dans la vie du club.
Il semblait, l'être. Ou il semblait vouloir l'être.
Ah, ils évaluaient les joueurs. Il y avait un suivi. On voit ça dans ce chapitre. Là, c'est assez intéressant. Ouais, ça allait quand même assez loin.
Bah, écoutez, c'est une histoire qu'on a eu un peu de mal qu'on a eu un peu de mal à déchiffrer. Je vais pas commencer à dire que ce qu'on a fait tient pas debout. Mais avec mon camarade Yvan Gasto, Nice, grand niçois devant l'éternel, on a travaillé là-dessus pour finir par s'apercevoir en fait que le club de supporters et le club lui-même se regardaient souvent en chien de faïence, mais que dans le même temps, par exemple, et c'est assez significatif, le club de supporters avait son siège dans les entrailles du premier stade, donc à l'intérieur même du club. Et il y a tout un tas d'autres petites histoires anecdotiques, par exemple le fait que les supporters semblaient emmener assez communément les joueurs, y compris les joueurs les plus réputés dans d'autres stades, parfois à plusieurs centaines de kilomètres, qui montraient aussi, qui montrent aussi leur communauté de vie, en fait, leur proximité. Mais au moment où les supporters veulent avoir une voix au chapitre plus prononcée, alors on leur met, et c'est un truc qu'on repère à Roubaix, c'est un truc qu'on repère à Rennes, ben on met un frein en disant non, pas de confusion, les affaires du club sont gérées par le club, les supporters peuvent être là comme un point d'appui, mais pas plus.
Je conclurai sur un chapitre également que vous consacrez, ça revient un peu souvent, mais que vous consacrez au journalisme et à la façon dont on suivait à la fois les supporters et le football. Quand vous voyez ce qui se fait aujourd'hui, depuis quelques années, bon, l'After a été précurseur, l'opinion est très forte dans le foot, c'est-à-dire on veut du débat, chacun veut donner son point de vue, et puis parfois ça peut être un peu chaud et tendu. Est-ce que c'était déjà le cas à l'époque? Est-ce qu'il y avait déjà un journaliste d'opinion présent dans le foot?
Non, c'est beaucoup plus policé. C'est beaucoup plus policé. D'abord parce qu'il y a beaucoup moins d'acteurs. Et s'il y a beaucoup moins d'acteurs et beaucoup moins de surface médiatique aussi, c'est parce qu'il n'y a que les journaux. Enfin, il y a la radio, pardonnez-moi. Oui. Les actualités cinématographiques. Mais enfin, comment dire, la caisse de résonance, l'amplitude de l'enjeu footballistique dans les années 30, elle est importante déjà, elle est croissante, mais elle est incomparable avec celle que nous connaissons aujourd'hui. Et du coup, le nombre des acteurs qui gravitent autour du football, les journalistes comme d'autres, moi je pense aux équipementiers, je pense à tous les techniciens, etc., etc. Donc un véritable univers à l'échelle nationale, et puis continentale et internationale, est incomparablement plus grand aujourd'hui. Donc évidemment, les voix sont plus nombreuses, les conflits sont probablement plus nombreux, plus orageux, et le ton des années 20-30 est beaucoup plus policé, pour la bonne et simple raison que les enjeux étaient sans doute moins crispants et lourds qu'aujourd'hui.
Philippe Tétard, merci beaucoup, c'était très intéressant. Donc je rappelle le bouquin, si vous voulez vous le procurer, vous allez sur le site de Pure Édition, pur-edition.fr. Donc les supporters en France de la belle époque aux années 30. Merci Philippe.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Bonne soirée.
À très bientôt, bonne soirée. Dans quelques instants, l'After continue, on va partir à Washington. Alors là, on revient sur l'actu, pourquoi? Parce que dans maintenant 20 minutes, va démarrer le match amical. Enfin amical, oui, amical, même s'il y a une petite finale derrière à aller chercher, entre Saint-Etienne et Montpellier. Et puis à 3h du matin, ce sera Marseille-Bordeaux. Les deux vainqueurs ensuite s'affronteront dans la nuit de dimanche à lundi, et les deux perdants, par définition, également. Et puis Marseille restera d'ailleurs, ensuite aux États-Unis, pour... aller affronter, je sais plus quelle équipe, je sais pas si tu as ça en
Washington.
Washington DC, l'équipe de Wayne Rooney. Et puis une petite info mercato qui nous arrive vers rmcsport.fr. Visite médicale vendredi à l'OM pour Alvaro Gonzalez, le joueur de Villarreal, défenseur donc dont on parlait, central, dont on a parlé longuement hier dans l'after. Allez, à tout de suite pour prendre des nouvelles de Saint-Etienne, de Montpellier, de Marseille et de Bordeaux aux États-Unis.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
23h43, l'after est là jusqu'à minuit. Bien sûr, on vous attend. On va partir à Washington dans quelques instants dès qu'on a Saber en ligne. Tiens, y a des questions qui reviennent sur notre invité. Est-ce qu'il y avait des chants de supporters? Ah oui, il y avait des jeunes supporters. On le voit dans le bouquin. Alors, Florent nous pose la question de la créativité des chants de l'époque. Là, style. Ah oui, Florent lui dit style Roubaix, la Ligue des Champions, tu la verras à la télé. À l'époque, il n'y avait pas la télé. Ouais. Donc, c'est
ou la joueur, on pouvait pas nous jouer à la PlayStation non plus.
Ou la Ligue des Champions, tu l'entendras éventuellement à la radio. Puis il n'y avait pas de Ligue des Champions non plus, à vrai dire. Donc...
Genre Roubaix, on va tout casser chez toi? Le président de Roubaix?
Ah, pas mal ça.
Je pense qu'avec le dialecte de l'époque, ça donnait ça, ouais. C'est...
voilà. Et puis, non, ce n'est pas Rudy Garcia qu'on avait en ligne, même s'il avait une voix qui effectivement se rapprochait un petit peu.
Non, attends, réagis tout de suite.
Ah oui, j'aurais fait une crise urticaire.
Non, vous n'avez pas trouvé que...
Non, rien à voir. Non. C'est un discours très, très intelligent, plein de bon sens, très structuré. C'était pas Rudy Garcia.
Alors, on va parler de clubs américains, là, entre guillemets, hein, français aux États-Unis. Ils sont quatre, donc je le rappelle, dans un quart d'heure, le coup d'envoi de Saint-Etienne-Montpellier. À 3h du matin, le coup d'envoi de Marseille-Bordeaux. Y a pas mal de réactions de supporters marseillais qui disent « Profitons-en pour recruter aussi sur place. Pourquoi pas un Mexicain ?» Ça ferait, c'est Guizzi qui dit ça. Ça ferait par exemple une bonne promo pour l'OM.
C'est plus facile à dire qu'à faire.
Oh bah les Mexicains sont très bien payés.
Les Mexicains, voilà, c'est ça. Ils ont un salaire qui est comparable, si ce n'est peut-être mieux que ce que peut proposer l'Olympique de Marseille actuellement. Il y a le salaire moyen mexicain, je pense que ça doit être pas très loin de celui en Ligue 1. Et surtout les gros clubs, genre Tigres, Rayados de Monterrey et compagnie, ils mettent des super salaires. Donc c'est très compliqué.
Saber Desfarges avec nous dans quelques instants, il est sur place, mais enfin comme un problème technique ne vient jamais seul, voilà, on va le retrouver dans quelques instants, voilà, bon.
Sinon, c'est un poste qui est intéressant, c'est d'avoir la confirmation de la visite médicale vendredi d'Alvaro Gonzalez. On en a parlé hier, mais bon, pour les auditeurs qui n'étaient pas là, c'est quand même un besoin qui avait été ciblé très précisément par l'équipe sportive de l'Olympique de Marseille. Là, à l'heure actuelle, tu suis de regarder les feuilles de match, il y a Bouba Camara, Chalet Tatsar et le petit Perrin qui sont capables de jouer défenseurs centraux. La moyenne d'âge là c'est 21-22 ans, c'est un petit peu compliqué, t'as perdu Abdenour, t'as perdu Ubochan qui pouvait jouer à ce poste là tu es en train de te séparer d'Adil Rami, t'étais dans l'obligation de jouer, de faire le pari sur ce type de joueur. Alors maintenant, le fait de savoir est-ce que c'est un bon joueur ou pas, moi j'ai lu un peu tout et n'importe quoi. Kevin, je sais pas si tu l'as vu avec Villarreal cette année quand même, mais en tout cas les retours qu'on en a, c'est que c'est un joueur qui physiquement est assez bon, techniquement c'est pas l'assurance au risque, hein, c'est pas tes défenseurs aux Pays-Bas qui sont capables de ressortir très propre le ballon, mais c'est un joueur qui a 300 matchs de Liga dans les pattes et qui du coup voilà, ça peut à mon avis que faire du bien à une défense de l'OM qui va être un petit peu orpheline de tuteur de Pascal le grand frère, ouais. Gilbert Bribois qui on se dit parfait quasiment.
Bon après je sais pas s'ils sont vraiment, moi j'aurais aimé quand même que l'OM prenne un joueur plus jeune. On a parlé hein, de ces joueurs, alors je dis pas des jeunes joueurs parce que c'est vrai que Bouba Camara est déjà un joueur qui a peu d'expérience du plus haut niveau.
Chalet Tatsar aussi hein.
Ouais, Tika Leta.
Qui sont amenés à être les deux titulaires, Kevin, hein.
Mais moi, j'aurais aimé un joueur, tu vois, 25, 26 ans, là, que l'OM puisse avoir une possibilité de revendre derrière, tu vois. C'est vrai qu'à chaque fois que l'OM prend un joueur, c'est sûrement un bon joueur, comme t'as dit. 300 matchs de Liga, hein, t'as pas les pieds carrés, hein, c'est pas possible. Donc, 300 matchs de Liga, moi, je l'ai vu une fois avec Villarreal. Maintenant, de là, te faire un avis tranché, ce sera un peu juste. Ouais. Mais par contre, c'est plus, tu vois, le profil de l'âge 29 ans.
Je comprends ce que tu veux dire,
ouais. Tu vois, déjà, tu prends Benedetto, qui a aussi 29 ans. Tu te dis,
après, Kevin, j'attire ton attention sur une chose. Même, c'est pas un achat. c'est un prêt avec option d'achat sûrement obligatoire, mais à mon avis ça doit les arranger de pouvoir recruter cette saison où tu sais qu'ils ont un problème de liquidité et de payer que l'année prochaine. Après, à mon avis ça a dû faire penser son dossier, tu vois,
c'est juste dans le style de joueur et comme on sait que l'OM doit quand même essayer d'investir sur des joueurs qui pourraient pourquoi pas être bankable dans un ou deux ans. Ça c'est un peu dommage. Maintenant le profil,
parce que Kevin, attends, je te coupe, mais rappelle-toi, parce qu'en début, à la fin de la saison dernière, dans cette grande interview de Jacques-Henri Hérault qui nous expliquait son projet, le nouveau OM Project, c'était miser sur des jeunes avec un fort potentiel de rente. Pour l'instant, si c'est avéré, tu cibles Pipa Benedetto qui a 29 ans, tu vas faire Alvaro Gonzalez qui a 29 ans, on attend toujours un petit peu ces fameux jeunes. On sait qu'il y a une approche sur Silas Ouamondji Touka qui l'attaque au PSG.
On en
parlait
il y a un mois.
Voilà, c'était une approche.
Ça aurait été très intéressant pour l'OM. Prends ce joueur-là, quitte à, comme fait, comme font certains clubs, reprête-le une année au Paris FC, qui continue de se faire les dents en Ligue 2.
C'est super intéressant.
Mais au moins, il est chez toi.
Parce que ça illustre très bien le fait que, encore une fois, je pense que Jacques-Henri Hérault, c'était un petit peu peut-être trop avancé par rapport à ce qu'il était capable de faire. C'est que les bons jeunes, qui ont un bon potentiel, ça coûte cher quand même. Ça coûte un peu d'argent. Silas, au moment du tout cas, le PFC, ils ont demandé quand même 8 millions d'euros. C'est pour ça que ça n'a pas été plus loin. Ils ont demandé entre 7 et 8 millions d'euros, t'imagines? Ça fait déjà, quand t'es l'OM, que t'as les problèmes avec le fair play financier, ça fait déjà un petit trou à la bourse, hein. Ouais. Il y a une inflation. C'est pour ça, on va revenir à ce qu'on disait sur Saliba, après ça nous fera peut-être de la transition sur Saint-Etienne. Mais il y a une inflation, sur le prix des joueurs qu'il faut quand même prendre en compte quand on discute maintenant des prix. On peut plus dire 30 millions, c'est une grosse somme, parce que maintenant, 30 millions, j'ai l'impression que, avec les droits de première ligue, avec la bulle inflationniste autour des prix des joueurs, 30 millions, c'est du menu fretin, quoi, tu vois.
Ça devrait pas être le cas.
Golden Boy a suivi notre ami Alvaro là. Il lui dit non mais très bonne recrue, ce mec est rapide, il est technique, dur sur l'homme, bon jeu de tête, peut jouer dans l'axe et sur un côté, voire même milieu défensif.
Ah ouais, sur un côté, ok.
Donc,
voilà. Non, mais que ce soit un bon joueur, je pense que.
Et il rajoute, notre défense a aussi besoin d'expérience.
Évidemment.
Oui bon. Il y en avait de l'expérience, hein, avec Abdennour et Rami, on sait ce que ça a donné.
Ouais, mais alors, t'avais Abdennour qui était totalement hors du groupe, t'avais Adil Rami qui était à Fort Boyard, donc il y avait plus personne pour encadrer Bouba Camara et...
Messieurs, dames, la miracle arrive, 23h49, notre standard remarche. Les supporters des Verts, eux, ils sont toujours au rendez-vous, à l'image d'Hervé qui est là. Salut Hervé.
Salut Gilbert, salut Jonathan, salut tout le monde.
Salut Hervé.
Toi, te connaissant, mon petit Hervé, tu vas regarder Saint-Étienne-Montpellier à minuit.
Ah oui.
Oui, parce que du coup, on est dans le premier des matchs amicaux qui, je l'espère, va un petit peu montrer le contour de l'équipe, un petit peu la montée en puissance. Donc voilà, donc en plus c'est l'été, on a que ça à faire, donc on va profiter, quoi.
C'est bien quand même la préparation.
Dis-moi, t'es content que ton club fasse partie de ces quatre clubs qui ont été comme ça un peu, entre guillemets, sollicités par la Ligue, sélectionnés pour aller vendre le foot français aux États-Unis ?
Je pense que là, la présidence à deux têtes, pour le coup, je pense que M. Caiazzo, en étant à Paris, etc., il a dû œuvrer un petit peu pour ça.
Oui, possible.
Maintenant le fait qu'on y soit, c'est plutôt flatteur ce que ça vaut, franchement, autant y être.
T'es étonné, Hervé?
Un petit peu étonné.
Moi, je suis pas étonné parce que Hervé, je sais que tu connais bien ton club et je pense que tu dois savoir que nos amis à la tête, j'ai oublié les noms là, c'est la fin de la soirée.
Didier Quillot,
Caiazzo, Roméo, c'est Caiazzo en l'occurrence.
Qui est à la tête de la Ligue.
Est en train de lancer d'autres tours de table pour retrouver des fonds qui rentrent au capital de la Saint-Etienne.
Caiazzo, il se dit je vais aux États-Unis pour chercher un.
Je pense c'est pas anodin.
Pour chercher un investisseur.
Je pense que pour Montpellier et c'est peut-être plus anecdotique, mais pour Saint-Etienne. Quand on connaît la situation du club, la situation financière du club, qui cherche de nouveaux investisseurs, qui ont eu quand même pas mal de déconvenus à ce niveau-là, je pense qu'ils disaient que si on peut aller aux États-Unis et ramener un peu de sous, pourquoi pas.
De toute façon, c'est un peu dans les tuyaux, oui, qu'il y ait un repreneur. En tout cas, eux, ils ouvrent la porte clairement à l'entrée d'un nouvel investisseur, et c'est souvent les États-Unis qui reviennent, qui reviennent dans les discussions. Donc après. Oui, c'est pour ça, je pense qu'il y a, honnêtement, si Caiazzo a pu être du voyage et puis sur place, il continue un petit peu à œuvrer, je pense que c'est un petit peu comme ça que ça se passe, ça doit pas être que le hasard. Après, la Ligue, s'il devait nous faire des petits cadeaux, ça serait peut-être d'arrêter de coller des huis clos partiels parce qu'il y a eu quelques fumigènes.
C'était trop cette année. Hervé, tu en demandes beaucoup à la Ligue, là.
Oui, je sais que je demande beaucoup à la Ligue, mais c'est vrai que c'est un petit peu le cirque, le football circus, pour reprendre une formule qui n'existera plus à la rentrée. Mais voilà, le football circus, voilà, on est en plein dedans. Donc voilà, moi je vais regarder, je vous dis, un peu regarder l'équipe alignée par printemps, regarder un petit peu tout ça, et puis bah, les laisser travailler tous dans l'ombre ou plus ou moins dans l'ombre, et puis on verra à la fin du mercato qui on a.
Ouais. Est-ce qu'il y a des investisseurs
qui arrivent? Par contre, en tout cas, pas vendre l'âme du club non plus. On voit à certains endroits les petits dégâts que ça peut occasionner, malgré des OM Champion Project ou tout ça. Allez. Qui n'avance pas. Donc, je préfère qu'ils prennent le temps et puis que ça soit bien fait plutôt que se précipiter et puis voilà, mettre en péril un petit peu l'institution, quoi.
Bon, là, tu vas récupérer un peu d'argent avec Saliba quand même.
Ah ben là, a priori, ouais, c'est fait à hauteur de 30 millions d'euros. Mais la même chose, hein, y a certains clubs à un moment qui avaient vendu très chèrement un joueur star de leur effectif. Certains ont bien utilisé les sous derrière, d'autres ont fait un petit peu n'importe quoi. Donc voilà, il faudra pas s'enflammer. Mais quelque part, ça aussi, c'est un cap de passer pour Saint-Etienne dans ce nouveau football, ce football moderne. On a le salary cap qui a volé en éclat il y a 18 mois. On était un peu les derniers à fonctionner avec
voilà, ça. Enfin,
ça.
Ce salary cap, mine de rien, alors au début, tout le monde disait « Ah, Saint-Etienne, regardez le modèle magnifique qu'ils ont mis en place, inspiré par l'Allemagne. » On avait reçu Bernard Cayazeux qui nous expliquait qu'il allait révolutionner la façon de gérer un club de foot avec son salary cap.
Ah ben, au final, ça a volé... Bon, par contre,
en fait, c'était intenable.
Ça t'a coûté contre Vendée-Marée quand même. Hein. Ça faisait un petit moment que beaucoup appelaient que le salary cap éclate justement parce que ça permettait pas de franchir un certain palier. Et ils l'ont fait, là c'est la vente record pour le club. Donc voilà, dans ce foot moderne, foot business,
mais
un petit
peu, Hervé,
c'est pas il avance doucement mais sûrement.
Hervé, t'es pas deux questions. La première, c'est le salary cap quand même, il t'a fait perdre des joueurs, même sur le une fois que ça sautait, tu vois, il y a eu des répercussions, je pense, sur le moyen terme, et t'es bien placé pour le savoir avec la vente de la CNS, qui avait un salaire quand même assez ridicule. Et toi, est-ce que tu regardes Shenzhen d'ailleurs? Est-ce que t'as vu qu'il a mis 4 buts en 11 matchs, la CNS?
Alors j'ai vu que sur son premier match, il met un doublé, alors ouais. Chez nous, il en a pas mis un, il a un coup franc. Par contre, j'ai vu aussi, je crois qu'ils sont relégués ou relégables en tout cas. Ouais. C'était
mais lui est toujours
au final. Mais lui, par contre, lui est toujours au rendez-vous, c'est clair. Il joue un chouïa plus haut, parce que j'ai eu l'occasion de voir un petit bout de match.
Quasiment en 10.
Ouais, il joue quasiment en 10. Et c'est vrai que dans un championnat comme ça, un petit peu moins athlétique,
alors, j'ai la compo, Ligue 1. Hervé, hein, de Saint-Etienne.
Ah.
T'auras Ruffier dans les buts.
Ouais. Voilà.
Debuchy, Moukoudi, Fofana, Palencia en défense. Bon. Donc, là, il y a de la recrue, Palencia par exemple, tu vas pouvoir le voir.
Ouais. Moukoudi aussi, il fait des très bons débuts. Ouais.
Hein. Mvila titulaire avec Youssouf, Kabela au milieu et devant Bouanga. Il y a Amoura aussi au milieu, ouais. Devant Bouanga et Berich.
Très bien.
Ok, ouais, bah, je pense que voilà, à part quelques retouches peut-être derrière, c'est une équipe qui pourrait démarrer. À savoir que Kazri également va rentrer de la canne, voir un petit peu au milieu si Youssouf prend la place. Moi, j'aimerais beaucoup que Printemps tente Kabela à côté de Mvila, parce que Gassé l'avait fait 2-3 fois en fin de saison dernière.
Ça avait très bien marché.
Ouais, ça avait été plutôt probant. Ça permettait à Kabela, en plus, d'être beaucoup plus concerné par le jeu sans ballon, notamment.
Et ça l'a empêché de marcher sur les pieds de Kazri.
Ça va être comme un gros test, Hervé, cette saison pour Printemps. Parce que
ça va être quoi, voilà, un gros test, oui, bien sûr.
Parce que alors oui, c'est bien, il récupère, on va dire, le poste de lui qui était le bras droit, lui qui était l'adjoint. Maintenant, on sait quand même que Jean-Louis Gasset a remplacé, c'est quand même une sacrée figure. Donc même si Printemps est sûrement sur la même ligne dans la continuité, va falloir quand même, dès les matchs de préparation, surveiller la réaction des joueurs, la réaction de l'effectif au changement d'entraîneur.
En tout cas, les
j'ai joueurs. J'ai la Montpellier aussi, hein, parce qu'il faut qu'on la donne aussi.
Ouais. Les joueurs avaient demandé, voilà, les joueurs.
Ouais, mais
sont
faut se méfier, les joueurs, ils tournent vite.
Printemps, quoi.
Supporters de Montpellier, vous aurez Berthaud dans les buts. Ouais. Aguilar, Congrès, Hilton, Mendes en défense. Milieu Ristich, Ferry, recrue montpellierienne, ouais, qui était à Nîmes. Mollet sera là. Et devant, trois attaquants, Le Talek, il est pas attaquant du tout.
Le
Talek au milieu, donc deux attaquants, Laborde et Skouletic.
Et Savanier.
Voilà, là, c'était présenté un peu bizarrement. Non, pas de Savanier, titulaire.
Il est sur le banc.
Là, je t'avoue que j'ai que la compo, je n'ai pas le détail du banc de touche.
C'est dur quand même pour les Nîmois cette année, parce que quand même Savanier et Ferry, deux joueurs qui ont fait quand même une belle saison.
Et là, t'as Bouanga aussi qui était à Nîmes.
Bouanga, pareil, ce soir, ils doivent avoir un peu le.
C'est trois bons joueurs.
Merci Hervé.
Ben merci à vous, les gars.
Match, hein. T'endors
ben
pas.
Merci. Hein. Non, on va tâcher.
Salut.
Merci, l'after, en tout cas. C'est cool de vous avoir l'été comme ça.
Alors, on est là, nous, on s'arrête jamais. Ça continue.
C'est cool pour nous aussi.
Merci, Kevin. Merci, Jonathan.
Merci, Gilbert.
Demain,
merci.
After spécial, parce que demain, bon, on va faire la finale de la CAN, bien sûr, à 21h. Bien sûr, l'after dans la foulée de 23h à minuit. On reviendra sur les matchs de cette nuit et puis on analysera ensemble la finale de la CAN. Et puis, je voulais faire un petit coucou à Eddie Toumoun, qui est notre responsable des partenariats RMC, qui s'en va. Il a décidé d'aller faire le tour du monde, le gars. Donc, du coup, on se dit, mais comment on va faire, nous? On va plus avoir de partenariat. Bah, si, on va réussir à trouver quelqu'un pour le remplacer, quand même, j'espère, d'aussi performant. En tout cas, bravo à Heidi.
Bravo.
À demain, les gars.
À demain.
23h, donc, pour l'after. Bonne nuit à tous.
RMC. L'after foot.